Radar.
Actu culturel.
Plus qu'une émission, une transmission. Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Radar, votre émission culturelle alliant cinéma et littérature, toujours en compagnie de l'érudit, du charismatique Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour Lucas, comment vas-tu Lucas ?
Eh bien écoute, toujours aussi bien pour notre émission, bien évidemment, toujours aussi motivé. Et toi Lucas, comment vas-tu ?
Je suis très motivé, très très motivé.
J'espère surtout, bien.
Surtout que la thématique du jour... m'a beaucoup plu, alors...
Ah ouais ?
Ouais, elle m'a beaucoup plu.
Ah ouais, elle t'a beaucoup plu, mais dans quel sens ?
Eh bien, parce que, tout simplement, c'est un sujet que j'aime beaucoup.
Ah ouais ?
Voilà, ouais, c'est vrai.
Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose.
Eh oui.
Mais c'est bien, tant mieux.
Maintenant, on ne va peut-être pas faire attendre plus longtemps nos auditeurs.
Bah oui, parle.
De quoi s'agit-il ?
Ah bon, bah ok, je voulais que t'en parles, mais c'est pas grave, je peux. Ok, j'y vais, bon ok, on va parler de l'horreur.
Ah, c'est dingue, c'est dingue.
Et pourquoi ?
Eh bien, bah parce que t'es là, d'abord.
Oui, déjà. Voilà. Et moi, toujours sur quelques exemples de films. Et toi, Lucas, de la littérature ?
Oui, de la littérature. Je vais bien évidemment te parler d'un auteur aujourd'hui en particulier. Voilà, je ne vais pas faire une compilation d'auteurs, de livres, où ça part dans tous les sens. Je vais parler de quelqu'un.
Mais comment tu perçois, enfin bon, pour introduire un petit peu la thématique, comment tu perçois, toi, l'horreur, finalement, dans la littérature ? Bon, l'horreur, en comptant bien évidemment tous les sujets dedans, parce que bon, l'horreur, c'est quand même assez vaste, hein.
L'horreur, déjà, c'est peut-être ta tête, notamment. Non, ça faut, évidemment, je rigole.
Dit Freddy Krueger.
Ouais, effectivement, Freddy Krueger. Très décru, on est d'accord.
Ouais.
Et non, après l'horreur, pour moi, en plus, je sais pas, on aurait pu faire cette émission peut-être en octobre, à l'occasion, tu sais, d'Halloween.
Ouais, c'est
mais
vrai.
Quand on aurait pu. Pense, là, actuellement, on est en train d'enregistrer, il fait très beau, il fait chaud, enfin, c'est parfait, là, la météo est nickel.
Vrai.
Et c'est le moment où ça annonce le printemps, l'été, les jours où on veille un peu tard.
Où on a du temps.
Jusque dans la nuit, et généralement où on se retrouve, c'est bien connu, autour d'un feu, à se raconter des histoires.
Ouais, c'est vrai.
Et quoi de mieux que des histoires d'horreur ?
C'est beau dit comme ça.
C'est vrai.
Eh bien, après moi, voilà, dans le cinéma, hein, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés, hein. Quand on parle d'horreur, il y a les zombies, la possession, le cannibalisme, l'horreur sous forme de SF. Bon, voilà, en réalité, tous ces films-là, justement, ils reprennent souvent la même mise en scène, c'est un peu le même cadre, et puis, bon, ils font leur sauce, tu vois, chaque réalisateur, bon, bien évidemment. Il y a des réalisateurs qui sont bien plus connus que les autres dans cette thématique-là. J'imagine que toi, Lucas, l'auteur dont tu vas nous parler est justement très connu pour cette thématique-là.
Oui, évidemment.
Et je te propose de que je commence.
Oui, vas-y,
okay,
commence.
Ok, parfait.
Bah oui, oui, oui.
Ok, super. J'y vais. Pour être véritablement dans le thème de l'émission, je vais parler non pas de l'horreur en général, mais bien du cinéma d'épouvante. Car dans quelques temps, va sortir un film nommé « L'exorciste du Vatican », normalement en mai prochain en France, si je ne me trompe pas, avec le talentueux Russell Crowe, hein, on en avait parlé, Lucas, pour The Nice Guys, le fameux. Son dernier film, pas excellent, hein, il avait tourné dans « Enragé », il me semble en 2019, ou une date, je crois que c'était un truc comme ça. Pas un excellent film, pas très mémorable, hein, pas mémorable du tout. Donc dans ce film, dans ce nouveau film dans lequel va apparaître justement Russell Crowe, réalisé par Julius Avery, déjà à l'œuvre dans un film que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs et qui ne faisait pas dans la dentelle, Overlord, une histoire assez sombre de nazis, enfin de zombies nazis, autant pour moi. Donc déjà de l'horreur, bien glauque. Dans L'Exorciste du Vatican, donc ce nouveau film qui sortira le mois prochain, Russell Crowe incarne le père Gabriel Amorce. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le père Gabriele Amorce, c'est un prêtre né à Modène, en Émilie exactement, une région de l'Italie septentrionale. Et donc ce père Gabriel est devenu l'exorciste du diocèse de Rome en 1940. 86. Donc jusqu'à sa mort en 2016, il aurait soi-disant réalisé plus de 50 000 exorcismes. Donc un chiffre qui est quand même assez important, il faut le dire. Ça te fait pas un peu peur, Lucas, 50 000 exorcismes?
50 000 exorcismes, j'ai envie de te dire, 50 000 exorcismes, qu'est-ce que ça fait? Attends, tu m'as dit, il a combien d'années de carrière?
Bah, il a été exorciste du diocèse de Rome en 1986 jusqu'à 2016. Donc il y a quand même...
Ouais, ça fait 30 ans.
Ouais, mais c'est... 30 ans, 50 000 exorcismes. C'est quand même beaucoup, hein.
C'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup par jour. Beaucoup. Hein, même par jour, ça fait énormément. Ça veut dire que le monsieur avait beaucoup de clients.
C'est vrai.
Mais ça veut dire qu'il y avait aussi beaucoup de démons, peut-être.
C'est vrai. Beaucoup, beaucoup de démons. Ouais. Ça fait peur.
Ça fait peur.
Donc, ce chiffre, bien évidemment, il est énorme. Vous l'aurez bien compris, c'est l'exorciste le plus connu du monde. Maintenant, on croit ou pas aux exorcismes. Justement, c'est l'idée même. Donc, pour en revenir au film, Russell Crowe, il joue ce fameux Père Gabriel, qui va dans ce film enquêter sur la possession d'un jeune garçon. Entre horreur et conspiration, il sera amené à découvrir certaines choses. Énormément de suspense, hein, mais je pense que c'est mieux comme ça. Vaut mieux pas trop en dire. Hein, on sera plus surpris sur le coup, je pense. Je suis pas sûr d'aller le voir directement en salle, mais pourquoi pas par la suite. Déjà en 2016, juste avant la mort du père Amorce, un certain William Friedkin, réalisateur du mythique film L'Exorciste, lui avait déjà consacré un documentaire nommé en français le Diable et le père Amorce. Donc tu vois que c'est quand même quelqu'un qui est assez connu. Ça sent un peu le réchauffer, mais bon, on verra bien. Durant le tournage, le réalisateur a pu même filmer, donc ce fameux William Friedkin, il a pu filmer un véritable exorcisme qui peut être visionné, et j'avoue personnellement que si c'est un montage, il est quand même très bien fait. Au contraire, si c'en est pas un, bon, c'est quand même assez perturbant, et c'est très glauque. J'imagine que tu te doutes, Lucas,
pour moi,
de cette idée-là.
De mon point de vue, j'espère personnellement que c'est un montage.
Ouais.
Cette histoire, parce que franchement.
Mais j'espère aussi quand même, parce que bon, c'est assez glauque quand même.
C'est assez glauque, mais bon, après, c'est comme ça.
Mais tu vois, je vais venir te réconforter parce que le père Amorce, il me paraît quand même plutôt fiable. Parce qu'en 2008, il a déclaré qu'il n'avait eu affaire qu'une centaine de fois à peu près à de véritables possessions démoniaques, ce qui est déjà quand même trop, on se l'accorde. Hein. Une centaine de fois de véritables possessions démoniaques,
oui, bon,
ça après, fait 100 démons, quoi.
Ah ouais, non, mais exactement, wow. C'est dingue, ça.
C'est dingue.
Mais bon, après, voilà, ce sont des choses qui arrivent.
Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Mais tu vois, Lucas, faire un petit tuto. J'ai préparé un petit tuto pour les auditeurs et pour toi-même, hein, bien évidemment. À ton avis, de quoi vais-je parler?
Eh bien, comment voir si quelqu'un a le démon?
Ouais.
Tout simplement.
Comment savoir si quelqu'un a le démon? Donc, comment savoir si vous êtes possédé? Donc, le père Amorce, encore une fois, explique qu'il doit y avoir une manifestation de symptômes bien spécifiques, sachant que ce n'est pas sûr, puisque le diable est pour lui le menteur par excellence. Il est donc en capacité de causer des symptômes identiques à des maladies naturelles, donc en quelque sorte, il se fond dans la masse. Avant tout, pour le père Gabriel, il y a suspicion de possession. S'il y a suspicion de possession, alors il faut consulter qui? Son médecin. Et surveiller, bien évidemment, l'effet des médicaments. Donc en gros, l'idée c'est, je me pointe chez le médecin et je lui dis, je crois que je suis possédé.
Ouais.
Je sais pas si ça passe, en fait.
Alors, je pense que ça peut passer, mais le problème c'est qu'avec l'actualité récente qu'on a eue, notamment avec toute cette histoire de Covid, j'ai bien l'impression que l'Église catholique est un peu revenue sur ses pas en ce qui concerne bien le rapport au médecin, parce que enfin je veux dire les médecins, tout ce qui est porter des masques, etc., c'est l'œuvre du diable. Donc,
ouais.
Bon, forcément, je sais pas si prendre des médicaments non plus est une bonne chose.
Ouais, voilà.
Enfin, j'imagine que le père Gabriolet recommanderait plutôt d'aller se baigner dans de l'eau bénite. Peut-être.
Oui, peut-être, oui. Ouais, oui, voilà. Parce que bon, au moins, on saura, quoi.
Ouais.
Mais en fait, il y a quand même des symptômes, tu vois, qui ne trompent pas, j'ai envie de te dire. Alors écoutez-moi bien. Si vous avez une inversion envers le sacré, comme une sensibilité à l'eau bénite, par exemple, tu nous en parlais, Lucas, une aversion pour la prière, j'allais dire la bière, mais non, une impossibilité d'entrer dans un lieu consacré, donc sacré, alors vous êtes possédé. Ensuite, certains troubles peuvent se manifester comme entendre des voix, avoir l'impression d'être observé, posséder une force surhumaine, alors vous êtes possédé. Enfin, si certains faits étranges arrivent comme des odeurs affreuses ou bien des objets qui bougent, alors vous êtes peut-être possédé. Et bon, peut-être qu'on peut aussi parler des événements comme le spiritisme. Donc si vous pratiquez du spiritisme, de la magie, ou si vous fréquentez régulièrement une secte satanique, alors, bien, vous êtes peut-être possédé.
Ouais, par contre, c'est un peu bizarre cette histoire d'odeur.
Ouais, mais on dit souvent qu'il y a une odeur en particulier. Jure. Ouais, c'est pas mal abordé dans.
Très bien.
En tout cas, moi, c'est dans certains films, on parle d'odeur. C'est des odeurs vraiment. Tu sais, c'est une odeur de mort, mais particulière, tu vois.
Ouais, parce que j'allais dire.
L'odeur du diable.
Ouais, parce que Père Gabriel n'a jamais mangé mexicain dans ces cas-là. D'accord.
On ne sait pas. Eh bien, avec tous ces symptômes, je pense que vous êtes paré à affronter le diable, le malin, ou bien encore le mal.
Le mal.
Bien évidemment, tout cela n'est pas à prendre au premier degré, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est réel, si c'est faux. Aucune idée et chacun se fait sa propre opinion, j'ai envie de te dire. Mais au moins, vous êtes au courant.
Oui, voilà. Non, mais c'est important. C'est important. Il faut veiller sur son prochain.
Et puis voilà.
Il faut se protéger, s'immuniser des mauvais esprits.
Il y a des symptômes qui cachent parfois des démons.
Ouais. Non, mais voilà, c'est comme ça.
Eh bien, ouais, j'en ai terminé pour cet exorciste.
C'est un tutoriel assez complet. C'est un tutoriel vraiment très complet. J'espère
merci.
Écoute, bien.
J'y ai donné tout mon cœur.
Ah, je vois ça, non, mais j'espère qu'il n'y a pas le démon qui va s'en échapper.
Non, c'est jamais, parce que bon, tu sais, pourrait s'emparer aussi de la radio, je sais pas.
Ouais, c'est vrai. Notamment,
c'est jamais.
Ouais, du matériel, par exemple.
Du matériel.
Eh oui. Mais pour ma part, Lucas, moi je vais te parler d'un auteur aujourd'hui.
Ouais.
Plutôt que de. Comment dire ? Plutôt que de faire tout un étalage de ce qu'est la littérature horreur depuis une certaine période, moi j'ai choisi de vous parler d'un certain Howard Phillips Lovecraft. Et ce monsieur, eh bien, j'en avais entendu parler au début de ma licence, et je me suis très vite intéressé à ce qu'il avait pu écrire, au genre qu'il a façonné, avec des œuvres marquantes de ce qu'on peut appeler la weird fiction. Tu sais ce que c'est le weird ?
Le weird, c'est bizarre.
C'est le weird.
Weird.
Le weird,
c'est bizarre. Ouais,
c'est bizarre, c'est étrange.
Mais attends, il y a un truc le truc vraiment weird, c'est que tu connaissais pas Lovecraft avant la licence ?
Non, je ne connaissais pas. Je connaissais certaines de ses œuvres, mais je voyais le nom de Lovecraft passer. Je me disais moyen. Enfin, voilà quoi. Ça m'intéresse pas.
Ok.
Enfin, c'est-à-dire que
tu connaissais le nom quand même.
Oui, je connaissais le nom, mais je veux dire, j'en ai entendu parler dans le sens où vraiment, on m'a donné envie de le lire.
Ok.
Et c'est la raison pour laquelle, je me suis un peu penché dessus. Et Lovecraft, comme de nombreux auteurs anglo-saxons de la période, réinterprète, utilise des éléments fantastiques bien connus de tous, tels que les fantômes, les vampires, par exemple. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais ça.
J'adore les vampires. Non, pas du tout.
Moi non plus, mais c'est pour ça. Après,
Twilight m'a traumatisé.
Ah bon ?
Ouais, clairement.
Moi, j'aime bien quand même Robert Pattinson, The Batman notamment.
Ok.
Mais bon, on ne s'arrête pas qu'à ça, puisque Lovecraft, comme beaucoup d'auteurs, crée lui-même ses propres créatures, toutes plus démoniaques et affreuses les unes que les autres. À l'image, par exemple, de Cthulhu, le gros bébé de Lovecraft, puisque ce monstre extraterrestre, titanesque, quasi divin, mi-homme avec une tête de pieuvre et doté d'ailes gigantesques, et il est incontestablement la plus connue des créatures sorties de l'imaginaire fécond de l'auteur américain. Bref, voilà, je compte pas te faire attendre, toi et nos auditeurs, plus que ça, donc je vais vous faire une petite présentation de HP, comme on dit dans le métier, puisque tout commence, figure-toi, le 20 août 1890. Il faisait beau. Il faisait chaud, c'était une journée d'été dans la petite ville de Providence, dans le Rhode Island. Et la ville vivait paisiblement. Et c'est là que naît le petit Howard, dans sa famille modeste de l'est des États-Unis. Le temps passe, il grandit et fait preuve d'un don exceptionnel pour la poésie et la littérature. Mmh. Malheureusement, l'enfant tombe régulièrement malade, faute à des pathologies génétiques, diraient certaines personnes, selon elles, et il souffre de terreurs nocturnes et d'autres maladies psychosomatiques, ce qui signifie que, le petit Lovecraft dort, mais il fait beaucoup de cauchemars, beaucoup de crises d'angoisse. Il se réveille avec la fièvre et peut-être aussi avec le démon, finalement.
Ouais, c'est possible.
Et c'est pourquoi la plume du petit Howard se trouve progressivement influencée par ses expériences douloureuses, à quoi s'ajoute de la misanthropie, puisque monsieur aime rester de son côté et ne parler à personne.
Ouais, il aime pas les gens, quoi.
Et il a un intérêt pour la littérature gothique, macabre, il lit beaucoup de Goethe, il aime beaucoup Faust. Et autre élément essentiel qui va lui aussi être retranscrit dans ses œuvres, c'est son goût particulier pour les sciences, pour le matérialisme, et notamment pour l'astronomie, puisqu'il est fasciné par les astres, les étoiles, les planètes, l'univers, bref. On en tire quand même beaucoup d'angoisse dans ses écrits par rapport au cosmos. Et dans un grand nombre de ses nouvelles, il laisse paraître une crainte de rencontrer, d'avoir un contact avec une autre dimension, avec des êtres venus d'ailleurs, arrivés sur Terre, des créatures bien différentes de l'homme, qui sont très hostiles. Et à cela, s'ajoute aussi, par ailleurs, un rapport au temps qui est peut-être assez... Comment dire ? On peut le reconnaître au fait que c'est un protestant pratiquant, et le petit Lovecraft... Enfin, le petit Lovecraft, quand il grandit, que ça devient un auteur confirmé, il retranscrit beaucoup l'élément central de la chronologie historique de l'homme, puisque pour lui, le déluge est vraiment au centre de tout ça, puisque c'est quand même un peu le début de l'histoire, la Bible.
Yep.
Et les créatures antédiluviennes possèdent une part importante dans sa littérature. Je reprendrai l'exemple de Cthulhu, qui aurait bâti une cité des millions d'années avant cet événement, et avant que elle-même soit engloutie par le déluge, et que son créateur ne se retrouve prisonnier en son sein, attendant en rêvant la fin des temps et son retour. Et de plus, le cadre de beaucoup de ses nouvelles varie régulièrement, avec quand même... un cadre qui revient régulièrement, qui est récurrent, c'est celui du nord-est des États-Unis, donc sa région natale, et de la nature sauvage, qui est mystérieuse, avec les premiers colons hollandais, britanniques, qui ont vainement essayé de domestiquer cette nature, avant de devenir des lignes familiales dégénérescentes que l'on retrouve dans beaucoup de nouvelles de Lovecraft, mais aussi de Stephen King, qui s'est beaucoup inspiré de lui. Et il s'en dégage parfois un mépris couplé à une fascination pour ces populations des régions du Maine ou du Vermont. Et pour résumer, je pense que nos auditeurs se doutent que de cet esprit un peu malade sont sortis de façon prolifique tout un tas de nouvelles, de romans morbides, affreux, fantastiques. Le point central, c'est Lovecraft, parce que c'est vraiment lui, son univers à lui, et c'est lui qui a façonné un peu l'horreur après les débuts du XXe siècle. Donc, ces œuvres sont devenues des références dans le milieu du fantastique et sont clairement intemporelles puisqu'elles font l'objet de rééditions très fréquentes. Mais savais-tu qu'il existait aussi des mangas ?
Non, du tout.
L'auteur américain s'est dit pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup les mangas. Ça m'a beaucoup plu. J'ai lu One Piece, alors je vais faire des mangas. Non, en fait, c'est fou. je conseillerais quand même à nos auditeurs la lecture des mangas de Gu Tanabe, qui est en fait un mangaka qui qui dessine les nouvelles de Lovecraft dans des éditions qui sont vraiment très jolies, en faux cuir, c'est vraiment très sympathique.
Okay.
Et franchement, je ne peux que les conseiller à nos auditeurs. Donc voilà.
Lovecraft, il est un peu universel, quoi. C'est...
Exactement.
On le reprend un peu partout, de toute façon, même dans le cinéma.
Oui.
Les mangas, tu vois, tu m'apprends un truc parce que je savais pas du tout.
Ouais.
Je pense que ça peut en intéresser pas mal parce que, moi perso, je suis pas fan de tout ce qui est manga, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, peut-être qui nous écoutent et qui adorent les mangas. Je pense que ça peut leur plaire, clairement. Hein.
Pourquoi pas ?
Puis l'horreur, quoi.
Ouais,
l'horreur, ça branche tout le monde. Hein.
Ouais, voilà, c'est un thème universel. Donc,
mais c'est vrai qu'il faut se le dire, hein. faut dire que Lovecraft, il est assez perché quand même.
Il était très perché. Et d'ailleurs, bon, j'aurais très bien pu parler aussi.
Attends, mais il a encore envie. Alors, j'ai peut-être une grosse bêtise, mais il a encore envie ou pas?
Non, c'est un auteur de la fin du 19e, début 20e.
Ah oui, non, mais autant pour moi.
Le malheureux.
J'ai débranché mon cerveau.
Le malheureux est mort à 40 ans.
Ah, mais oui, autant pour moi.
Eh oui.
Eh oui.
Bon, est-ce qu'il est mort dans son sommeil? Personne ne sait. Mais bon, voilà.
Je prête même pas attention aux dates, quoi. Mais c'est grave pour un historien.
Mais c'est vrai, mais on a quand même tout de même du mal à imaginer que des auteurs dès le 19e se sont intéressés à la thématique de l'horreur.
C'est ça,
alors
aussi.
Que pourtant, c'est quand même justement l'un des paradoxes de ce siècle, c'est que on attribue souvent, tu sais, le 19e siècle, grande découverte scientifique, avec, tu sais, Jules Verne, qui fait « Ah, regardez, dans mes romans, je vais vous parler de telle ou telle découverte, et tout. » Mais c'est aussi le siècle où il y a beaucoup de spiritisme.
Mais après, même au Moyen-Âge, c'est assez connu. Vrai. Même au Moyen-Âge, de toute façon, la présence du diable a tout fait. C'est-à-dire que, bon, la construction du stéréotype du diable, de la sorcière, etc., ça fait partie aussi de ce concept-là, de l'horreur, quoi.
Ouais. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est quelque chose qui, dans le roman, c'est beaucoup développé. Ouais,
c'est les fondations, j'ai envie de dire, de l'horreur, c'est beau.
Exactement. J'en ai terminé pour cette petite introduction sur l'auteur.
Mm-hmm. Ouais.
Je parlerai un peu plus tard, une petite interlude musicale peut-être.
J'allais te proposer.
Je parlerai de nouvelles. Toi, tu nous présenteras encore des œuvres cinématographiques.
Yep.
Mais d'abord, petite interlude musicale a priori.
Oui, alors du coup, c'est ma musique, c'est ça?
Oui, c'est ta musique.
That's my. Ok, mine. Ok, alors. Moi, du coup, j'ai décidé de vous faire écouter Looking for the Magic d'un groupe qui s'appelle Mind the Gap. Donc, ça, c'est une reprise. Je ne me rappelle plus exactement du nom de l'auteur et je préfère pas me tromper. Mais c'est une musique que j'ai découvert dans un film qui s'appelle... je ne me rappelle... Yeah, si. You're Next. Je crois que j'en avais déjà parlé en plus.
Je ne sais plus.
Et j'ai découvert cette musique dans ce film. Et voilà, on va dire que la musique fait énormément dans le film. Je me suis dit, comme j'adore cette musique, et que ça m'a donné envie d'écouter encore plus de rock. Bon, je suis parti vers cela.
Ah bah,
donc
bien.
Je vous propose Looking for the Magic de Mind the Gap.
Très bien, c'est parti.
Thank you.
Eh bien, merci beaucoup, Lucas, pour cette petite interlude musicale. J'ai beaucoup apprécié.
Des ogétaf, comme on dit au pays.
Oui, mais sauf qu'ici, nous sommes en France. On dit « c'était sympa ».
C'était sympa. Ok, non, enfin.
J'aime imposer le...
Oui, j'ai vu ça. C'est la thématique, ouais. Hein, c'est l'horreur. Ouais, hein, c'est tu vrai, veux me faire peur, je le sais.
Mais oui, effectivement, c'est bien connu. Mais que voulais-je dire ? Oui, j'ai beaucoup apprécié cette musique. C'est très sympa.
C'est vrai que c'est très sympa.
Mais il me semble que tu n'en as pas fini et que tu veux nous parler de quelque chose...
Oui. Et je commencerai par dire que les histoires de possession finissent toujours mal, et il semblerait que peu importe si on y croit ou pas, les faits sont les faits. Et je pense que l'équipe du tournage de Poltergeist en a été témoin. Ces histoires de possession n'apportent que du malheur. D'ailleurs, tu connais cette fameuse histoire de Poltergeist ou pas, du tournage de Poltergeist ?
Alors, je connais Poltergeist, mais l'histoire du tournage, je t'avoue que
non, tu connais pas du tout.
Ça ne me dit rien.
Non, ok. Bien, écoute, déjà Poltergeist, c'est un film de 1982 par Tobe Hooper, mais celui qu'on retient surtout. C'est Steven Spielberg qui était chargé du scénario, et tu connais mon amour pour Steven.
Oui, non mais Steven, ce fameux Steven qui passe de Poltergeist à Jurassic Park et ensuite à des films un peu plus sympathiques.
Voilà, mais tu vois, il est toujours là.
Oui, il est toujours
Il y a toujours un Spielberg caché derrière un film.
C'est vrai.
Mais surtout, ce que tu te demandes, je pense, Lucas, et même nos auditeurs, c'est finalement, qu'est-ce qu'un Poltergeist, hein ?
Oui, c'est vrai.
T'en as une idée, peut-être une théorie
Eh bien, le poltergeist, ça serait un phénomène paranormal qui pourrait mettre au chômage des sociétés de déménagement. Mais malheureusement, ça se produit finalement, assez rarement, finalement. Et bon, ça fait peur, alors que pourtant, si ça arrivait tous les jours, tout le monde serait en mode « Ah, mais... » Bah, tant mieux, c'est vrai, attends, cette armoire, fallait que je la bouge.
Il fallait que je la déplace,
merci,
tu vois.
Merci.
Non, c'est vrai que ça serait sympa comme entreprise, genre Demon & Co. ou un truc comme ça.
Exactement,
c'est vrai. Ouais, voilà, mais tu as tout à fait raison. Eh bien, moi je vais te le dire, hein, exactement ce qu'est un poltergeist. Donc dans l'univers du paranormal, c'est un phénomène qui est parfaitement défini. Le nom poltergeist, apparu au XVIe siècle, est la combinaison de deux termes allemands. Polter, qui signifie bruyant, et Geist, qui signifie esprit. Voilà, donc c'est allemand. En fait, à l'époque, c'était différent. Au début du XXe siècle, surtout, une théorie s'est développée, celle de Frank Podmore, membre du comité directeur de la Société pour la recherche psychique en Angleterre. Donc, il a analysé des milliers de manifestations de poltergeist, et il est arrivé à la conclusion que dans la plupart des cas, c'est une affaire d'enfants perturbés, genre puberté.
D'accord.
Tu vois l'idée ? Les phénomènes seraient pour lui provoqués par des adolescents qui sont les auteurs donc de ces supercheries. Et cette théorie, on l'appelle la théorie de la vilaine petite fille. Voilà.
On a toujours une petite fille, c'est,
voilà,
c'est
donc,
fou. Voilà,
donc petite théorie sur la vilaine petite fille. Voilà. En gros, voilà, ça serait un complot, enfin pas un complot, mais une blague, un prank.
Très bien,
voilà.
Très bien. Ouais, non mais c'est...
À partir de ces données-là, les poltergeists sont des déplacements inexpliqués d'objets, des bruits en tout genre, des apparitions ou disparitions d'objets. L'intensité est plus ou moins forte et, bien évidemment, ils sont parfois spectaculaires ou parfois plus discrets. Mais toujours inquiétants, c'est surtout ça. Donc, le cinéma, on va dire qu'il s'est en quelque sorte emparé des poltergeists en rendant responsable de ces faits étranges et effrayants. En mettant en scène un esprit frappeur, maléfique et vengeur. Donc bon, après on va pas se le cacher. Quand dans la vraie vie, t'as ton trousseau de clé qui disparaît, bon, c'est pas forcément un poltergeist. Hein.
C'est jamais, attention.
Méfie-toi.
Il vaut toujours mieux être vigilant. C'est,
ouais,
c'est
je suis un peu dans la. Je suis mal alors, hein, parce que j'en perds des choses.
Ouais,
et puis je les retrouve ailleurs.
C'est très étrange.
C'est étrange, tu vois.
Il faut faire attention.
Donc, on revient bien évidemment à cette malédiction du tournage de Poltergeist avec plusieurs événements assez traumatisants. Donc là, tu vas connaître le fin mot de l'histoire. Donc, premièrement, on avait une ambiance qui était très lourde lors du tournage. Il y avait quelque chose qui se tramait dans l'air. Il y avait comme un malaise, tu vois. Surtout que, en plus, de vrais ossements d'humains étaient présents sur le plateau, assez glauques, et que, à cause de ces ossements, un exorcisme a été pratiqué sur le plateau. Donc justement, il y avait, voilà, on sent qu'il y avait, quelque chose, tu vois. Et justement, c'est, il y a un chaman qui s'est rendu sur le plateau pour réaliser, bon voilà, quelques tours de magie, et il est mort juste après.
Mais quel hasard !
Quel hasard !
Quel hasard !
Et justement, pour en revenir à ces ossements, il y a justement cette scène dans la piscine remplie de cadavres, et donc ces cadavres.
Ah,
eh bien, ils étaient, oui, ben, c'était des vrais cadavres, ils étaient réels. Hein.
Je vois
la production, en effet, préférait acquérir de vrais corps plutôt que des répliques beaucoup plus chères et nécessitant donc ben, plus de préparation. Certains pensent que ce choix aurait causé donc la malédiction planant sur la saga. Sur la saga, puisqu'il y en a eu plusieurs, des Poltergeist.
Mais je crois que c'est une histoire d'acteurs qui meurent les uns après les autres.
C'est ça.
C'est ça. Ouais.
Et bien justement, deuxième point, après la sortie du premier film, l'actrice Dominique Dunne est morte à l'âge de 22 ans. Donc celle qui incarne Dana, la sœur aînée de Caroline, est tuée par son petit ami John Thomas Sweeney, qui refuse que la jeune actrice, ben, finalement, qu'elle le quitte, quoi, tu vois. Voilà, il a un petit peu vrillé, quoi. Ça serait plus ici de la psychologie. Il l'étrangle dans l'allée de sa maison le 30 octobre 1982. Elle tombe alors dans un profond coma et décède 5 jours plus tard. Le plus glauque dans tout ça, c'est que le meurtrier aurait commis son crime en mettant la bande originale du film Poltergeist à fond afin de couvrir les cris de Dominique.
Oui, c'est vrai, comme tu disais, je pense qu'il a peut-être un peu vrillé.
Il a un peu vrillé.
Un peu vrillé.
Voilà. C'est... Psychologiquement, ça tournait pas rond, quoi.
Ça tournait pas rond, non, mais c'est affreux.
Et ensuite, le décès le plus marquant ayant emporté. Le décès le plus marquant, c'est la petite fille, Caroline.
Hein.
Heather O'Rourke. Donc l'interprète de cette petite fille qui meurt à seulement 12 ans durant le tournage du troisième volet en 1988 suite à une infection intestinale. Ce dernier épisode lui est d'ailleurs dédié, donc à la fin du film on a son nom. Elle était en effet atteinte de la maladie de Crohn, donc cette disparition tragique met fin donc à la saga. Bon, on va dire que c'est surtout cette mort-là qui a particulièrement marqué. Je crois que moi, ce qui m'aurait particulièrement marqué, ça aurait plus été l'assassinat de sa sœur aînée, mais bon, je sais pas. Bon, une petite fille, c'est vrai que ça marque toujours.
Ouais, ça marque toujours quand même. Hein. C'est vrai que ça marque.
Ensuite, il faut dire que il y a un autre acteur qui est mort. Donc, c'était un succès, Poltergeist. Hein. C'était un véritable succès. Donc, directement, après le tournage du 1, après qu'il ait eu un succès, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un second film parce qu'on a envie de faire de l'argent. Et le 14 septembre 1985, soit peu de temps après les prises de vue, Julian Beck, l'interprète du terrifiant révérend Kane, meurt à 60 ans d'un cancer de l'estomac. Donc, encore un mort. Puis ensuite, on a Will Sampson, connu aussi pour son rôle d'Indien géant dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je ne sais pas si tu as vu le film. Un film qui est très très dur d'ailleurs avec Jack Nicholson.
Alors non, mais après j'en ai tellement entendu parler.
Voilà,
que
c'est ça.
Le genre de film, à la limite, tu connais quand même sans même l'avoir vu. Hein.
Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça se passe dans un asile. Ça se passe dans un asile et c'est quand même très très glauque. Donc bon, pas tout le monde ne peut pas le regarder, je pense. Ceux qui sont plus sensibles vont avoir du mal. Puis ensuite, on a enfin, ça cesse, j'ai envie de te dire, cette malédiction, Oliver Robbins, qui incarne le grand frère de Caroline, qui est attaqué par un clown dans le premier volet. Justement, on le voit à l'écran. Donc, outre le fait que cette scène est certainement la plus effrayante du film, le jeune acteur a failli mourir, donc en la tournant, cette scène. Attaqué par le jouet qui l'entraîne sous son lit tout en tentant de l'étrangler, il aurait pu finir étouffé si Steven Spielberg, oh mon Dieu, Steven Spielberg,
mais quel sauveur,
ne l'avait pas sauvé de justesse.
Putain, mais quel homme, mais quel
tu
homme.
C'est pour ça, moi,
vraiment,
Steven Spielberg,
c'est
voilà.
Vraiment c'est un sacré bonhomme, Steven.
Il a tout fait dans la vie. Il a sauvé des vies, il a fait d'incroyables films, voilà.
Quel homme.
Steven Spielberg.
Ah, Steven.
Ouais. Et donc je finis sur ce magnifique nom qu'est Spielberg.
Ouais.
Pour te donner la parole, j'imagine que tu as des choses passionnantes également à nous faire,
eh bien,
à nous dire.
Écoute, Lucas, je vais d'abord commencer par vous livrer mon expérience personnelle.
Ouh, et une petite anecdote.
Et que je conseillerais, je conseillerais nos auditeurs à la suite de cela, puisque moi, la première fois que j'ai lu un Lovecraft, je me suis retrouvé, je pense, dans des conditions idéales, vraiment idéales. Et j'espère que le jour où tu liras un Lovecraft, Lucas, tu seras un peu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que, pour moi, lire un Lovecraft, il faut d'abord être seul, avec le livre dans les mains, au milieu d'une pièce.
Bien évidemment.
Au milieu d'une pièce, parce qu'il faut qu'on ressente, tu sais, un peu la tension. Il faut que
la tension, il faut qu'elle soit palpable.
Si un démon doit venir te prendre là comme ça, eh bien, il faut qu'il passe, il faut qu'il vienne de n'importe quel côté. Il faut que tu saches te défendre. Mm-hmm. Et il faut que dans cette pièce, il y ait juste assez de lumière pour lire. Il faut que ce soit un jour de tempête, sans aucun autre son que celui du vent. Le cri du vent. Et j'invite justement nos auditeurs à plonger dans le bain de l'horreur en proposant deux nouvelles qui m'ont marqué et que j'ai lues un peu dans ces conditions. Voilà, c'est quand même l'horreur, quoi.
L'horreur.
C'est la thématique du jour.
C'est vrai.
Et je vais commencer avec, j'en ai parlé en introduction, l'appel de Touloulou, qui est indéniablement la pièce maîtresse de l'univers Lovecraft.
Alors, j'ai cru que t'allais nous dire l'appel du général de Gaulle.
L'appel du général de Gaulle. Bon, c'est l'horreur, mais pour certaines personnes. Et beaucoup d'autres nouvelles se rapprochent justement de l'appel de Cthulhu en évoquant des similarités avec cette œuvre qui est parue assez tardivement en février 1928 dans la revue Weird Tales. Mais sais-tu ce qu'est le Weird Lucas? Non, je plaisante.
Ouais, j'ai eu peur là parce que bon.
Bon, en fait, l'histoire débute avec un anthropologue de Boston, du nom de Francis Thurston, parce qu'on est aux États-Unis, fuck yeah, et qui hérite des biens de son oncle, un savant très renommé dans l'étude des sociétés anciennes. Et dans ses affaires, le neveu découvre les notes que le professeur Angel écrit à la suite de sa rencontre avec un artiste qui lui affirme avoir sculpté un bas-relief en argile dans la nuit du 1er mars 1925, à la suite d'une crise de démence, voire de terreur nocturne, un peu à la façon de Lovecraft. Mais sais-tu ce qui s'est passé précisément ce 1er mars 1925, Lucas, toi qui es en histoire?
Non.
Ça tombe bien parce que justement, je sais pas ce qui s'est passé non plus.
Ah, merde.
Mais dans le récit de Lovecraft, en ce 1er mars 1925, il y a beaucoup d'événements concomitants qui ont une corrélation avec ce bas-relief, puisque ce bas-relief laisse paraître les pratiques d'un rite inconnu en l'honneur d'une divinité jusque-là inconnue elle aussi. Et ces événements, il s'agit de tremblements de terre, d'une violence inouïe dans le Pacifique, des rites occultes dans les jungles de l'Evergreen avec Johnny B. Goode.
Je me suis dit une petite référence, pas du tout.
Mais bon, c'est l'Evergreen quand même, c'est dans les régions marécageuses de la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi un équipage de navires qui est chassé par des fanatiques ou des gens sortis d'une autre dimension, des possédés, la découverte d'une cité sortie des profondeurs et digne d'une autre dimension. Tous ces éléments convergent vers une personnalité qui est Cthulhu, le maître de la cité en question. Et tout est réuni dans cette courte nouvelle d'une cinquantaine de pages, vraiment en une soirée, vraiment en même pas une heure et demie, deux heures, c'est lu, pour vous plonger dans l'effroi et l'angoisse d'une rencontre avec cette entité antédiluvienne venue d'une autre planète, voire d'un autre univers, et qui porte en elle la crainte de la fin des temps imminente et de la domination de l'homme sur Terre. Est-ce que c'est pas formidable?
C'est formidable.
C'est formidable. Mais vraiment, ça plonge dans l'angoisse.
Oui, c'est vrai que ça plonge dans l'angoisse.
Eh oui.
Mais bon, il y a quand même quelques questions, quoi.
Oui, il y a des questions. C'est intéressant, mais c'est pour ça.
C'est vrai.
Ça permet de...
Après, voilà, il faut que ça soit une histoire aussi.
Parce que pour Lovecraft, l'homme n'est que de passage sur cette terre, parce que de toute façon, il n'est qu'un grain de poussière dans cet univers et dans les temps immémoriaux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je vais quand même te parler d'une deuxième petite nouvelle, un peu plus ancienne, qui est celle de la peur qui rôde. Ou en anglais, The Lurking Fear.
Okay.
Et qui est une nouvelle datant de 1923, qui est publiée dans la revue Homebrew. Et en ce qui concerne ce récit, Lovecraft nous plonge dans l'angoisse avec l'enquête d'un narrateur un peu trop curieux dans les montagnes des Catskills dans l'état de New York, donc dans le nord-est des États-Unis. Et afin de prendre un peu plus connaissance du cadre, bah, je t'invite, Lucas, et nos auditeurs également, à faire une petite recherche sur Google Images pour voir un peu à quoi ça ressemble.
D'accord.
Et pour se rendre compte dans quel trou perdu notre héros est parti.
J'y vais de ce pas.
Mais fais donc, puisqu'il est parti sur les traces d'une créature démoniaque rôdant dans ces régions, dans ces étendues infinies et vertigineuses de végétation et de forêts, perdues dans le nord-est des États-Unis. Et bon, en fait, l'histoire, ça commence tandis que de violentes tempêtes affectent la région. Les petits villages situés autour d'une colline, très simplement appelés la colline des tempêtes, sont ravagés, en fait, ces villages, par des dégâts dont l'origine ne semble pas provenir simplement des dégâts de la foudre ou de la pluie, des inondations. Mais il semble alors que tout tourne autour d'une mystérieuse maison de l'époque coloniale du XVIIe siècle, où, dit-on, la famille de Hollandais, les Martins, qui était installée depuis des générations, semble avoir sombré dans une folie totale. Puisque cette maison voit passer entre ses murs des meurtres, des actes incestueux, et la demeure, perdue dans la forêt, semble être le nid de créatures démoniaques que le narrateur tente d'apercevoir tout au long du récit afin de parvenir à résoudre son enquête et savoir s'il reste encore des survivants de cette lignée maudite. Alors là aussi, la nouvelle est assez courte, elle est longue d'une soixantaine de pages, et il reste à savoir pour nos auditeurs, et pour toi aussi Lucas qui va te jeter sur cette nouvelle,
il reste à savoir, mais intense, très intense,
parce qu'il reste à savoir ce qui était advenu aux Martins et de savoir quel monstre se cache derrière toutes ces histoires. Voilà, parce que aussi, bon, c'est assez tendu. On est quand même sur une histoire où, pendant 60 pages, on est derrière un peu le narrateur en lui disant arrête là, franchement, mec, t'es tout seul, il n'y a personne autour de toi, t'es perdu dans la forêt.
Ouais.
J'aurais pas. Il faut dire les termes. J'aurais pas les couilles. Voilà. Mais
en même temps, c'est normal. Non, je veux dire, bon.
Qui va se perdre dans la forêt comme ça.
En même temps, bon, tu regardes, j'ai envie de te dire, n'importe quel récit horrifique.
Ouais, c'est vrai.
Bon, t'es toujours derrière en mode, bon, les gars, faut se calmer parce que bon. Enfin, je veux dire, je sais pas, n'importe quel film d'horreur, on est tout le temps en train de s'énerver, j'ai envie de te dire. On est tous en colère derrière le personnage principal qui prend des décisions mais débiles.
Ouais.
Débiles. Donc bon, il n'y a pas d'histoire sinon.
Bah non, c'est vrai. Il n'y a pas d'histoire. Et il faut un peu de folie dans toute cette histoire. Bon, eh bien, moi, j'ai fini avec Lovecraft. J'espère très sincèrement que nos auditeurs vont aller lire ces belles petites nouvelles très sympathiques et pouvoir les lire autour d'un feu dans la nature la nuit. Et voilà.
Moi, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr que ça va se faire, mais pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Ouais. Cet été.
Non. Chacun ses délires.
Ouais, chacun ses délires. Ouais, effectivement.
Bon, eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lucas?
L'horreur c'est bien.
Faites-vous peur, c'est bien.
Faites-vous peur et surtout veillez à vos symptômes là pour voir si vous êtes possédé. Et puis voilà quoi.
Bah ouais. Mais du coup, je pense qu'on peut en terminer avec cette émission sur l'horreur, les gars.
On peut conclure, oui, effectivement.
Très bien. Eh bien,
je te laisse conclure.
Oui, avant de conclure, je vais peut-être présenter justement la musique.
Effectivement, c'est vrai. Ouais, tu m'as. Ok.
Qui
ouais. J'avais oublié.
Qui est une musique de Carpenter Brut, qui son nom ne l'indique pas.
Qui est bien violente, non?
Oui, c'est bien violent.
C'est bien violent.
Beware the Beast. Pour ceux qui sont très curieux, vous pouvez aller voir le clip officiel qui est, comme dirait Lovecraft, très weird.
Oui.
Mais non, c'est vrai que c'est assez étrange. J'aime beaucoup Carpenter Brut. Okay. Son nom ne l'indique pas, mais c'est un artiste français. C'est un DJ qui est implanté aux États-Unis, qui fait aussi des petites productions cinématographiques qui pourraient te plaire. C'est du cinéma indépendant.
Il fait des expériences, quoi.
Ouais, il était très passionné par tout ce qui tourne autour du satanisme, du sectarisme aux États-Unis.
Sympa.
Dans les années 70-80, c'est très intéressant parce que c'est un peu, tu vois, la façon de... Comment il s'appelle ? Je ne sais jamais son nom. Celui qui essaie de chasser Eddie dans Stranger Things.
Stephen King.
Dans Stranger Things, tu sais.
Ah non, dans Stranger Things, pardon.
Celui qui essaie de poursuivre Eddie dans la nature en pensant que c'est un sataniste. Lui et tout son petit groupe de joueurs de Donjons et Dragons.
Mais attends, Eddie quoi ? Dans Stranger Things ?
Oui, attends, c'est pas Eddie son nom ?
Mais non. Attends, mais des jeunes qui coursent un gamin dans la forêt ?
Eh oui !
Mais c'est ça !
C'est non.
dans ça ! Si !
Mais non ! Mais voyons, bon, alors...
Attends, mais
on devait terminer cette émission, mais après...
Mais attends, mais
quelqu'un
mais
manque
non.
de...
Mais non, mais Stranger Things, Eddie ? Il y a un Eddie dans Stranger Things ?
Dans la quatrième saison...
Dans la quatrième saison...
Alors, je dis Eddie, mais je crois que c'est pas Eddie. Tu sais, celui avec les cheveux longs, que tout le monde aime bien...
Oui. Je vois de qui tu parles.
Oui,
le personnage principal.
Oui, un peu le personnage principal, effectivement. Celui qui se fait poursuivre parce que tout le monde pense... Et qui se cache parce que les gens pensent que c'est un sataniste. Et que c'est à cause de lui que des événements paranormaux prennent Hawkins.
Alors là, je pense que je suis possédé parce que je n'en ai aucune idée.
C'est le démon de l'oubli.
J'ai tout oublié.
Eh bien...
Tu vois, à quel point saison 4 m'a...
Ça n'a pas,
m'a
l'air
pas
marqué,
marqué quoi, c'est,
hein, ouais.
c'est dingue.
Franchement,
hein.
c'est dommage. Eh bien voilà, bah, moi, franchement, ça.
Mais pourquoi pas
Carpenter Brut, ça m'a fait un peu penser à ça, cette idée des États-Unis des années 80, mm-hmm. avec des gens dans une église qui disent on va le poursuivre, c'est la chasse aux sorcières.
Ok, et ouais, je vois.
C'est très sympa. Donc j'invite nos auditeurs à écouter Beware the Beast, qui est vraiment, vraiment très sympathique. Et eh bien, je pense.
Et on vous laisse sur ses mains.
Très bien. Eh bien. Bonne soirée à vous, enfin bonne journée.
Bonne après-midi, bonne nuit.
Et n'oubliez pas de suivre Radar sur Instagram.
C'est vrai.
Allez, ça marche. Eh bien, au revoir.
Au revoir. Shape of a snow, delicious bone.